Alors, je vais vous lire quelques extraits du chapitre 2 de la Genèse. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte.
Et maintenant, quelques extraits de Genèse, chapitre 3, où nous voyons la désobéissance de l'homme et la chute. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu étais pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris.
Maintenant, quelques versets du chapitre 9 de la Genèse. Ce texte traite de l'alliance établie par Dieu avec tous les hommes à la suite du déluge. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire tous les êtres vivants. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. »
Et enfin, pour terminer les lectures, deux citations tirées du Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 3, et versets 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et une deuxième citation dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 19. Ce verset sera vraiment celui retenu pour le message. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. On va prier avec Paul Robert pour ce message. Oui, Seigneur, nous croyons que tu veux guider, conduire Paul Robert dans ce qu'il aura à nous apporter, dans ce qu'il a à cœur de nous transmettre, Seigneur. Sois présent en lui, en chacun de nous, que nous puissions sortir de ce lieu de culte étant édifiés et nourris spirituellement. Amen.
Amen. Merci, mes amis. Nous pensons aussi à notre pasteur Harry Meyer qui, ce matin, prêche à Versoix. Pas Harry Meyer. Excuse-moi, Harry. Tu vois, hein, les habitudes sont restées. Roger Sewell qui prêche ce matin à Versoix, à Mille, dans le cadre de l'Église évangélique libre. Alors voilà, on est aussi en communion avec cette communauté et avec notre pasteur. Alors bonjour à chacun. C'est vrai que chaque fois qu'on a préparé un message, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire qu'ils connaissent pas ou qu'ils connaissent pas trop ou quelle exhortation faire. Et en fait, je me laisse toujours conduire par des choses qui m'habitent. La dernière fois, vous savez, c'était une nuit un peu difficile et c'était ce réjouissez-vous hein, qui était le centre. Et cette fois-ci, c'est un verset qui effectivement est venu à Noël. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Mais avant tout ça, on voit que Dieu, on a parlé de l'univers tout à l'heure, plante un jardin en Éden. Dieu, le grand jardinier. Et dans ce jardin, tout pousse. Il y a des fleuves qui l'arrosent, des arbres magnifiques, dont cet arbre de vie qui donne la vie. Des animaux en parfaite symbiose les uns avec les autres. Pas de mal dans ce jardin, respect de tout et de tous. Et dans ce jardin, on l'a lu, Dieu y met l'homme et la femme pour garder et cultiver en toute liberté. Cultiver un jardin, je m'adresse à vous les agriculteurs, les vignerons, les jardiniers, où il n'y a aucune mauvaise herbe. Non mais attendez, c'est pas mal. Hein. Pas de pucerons, pas de vers de salade, vous savez, pas, rien. Tout pousse, tout devient beau. Il n'y a qu'à planter et accueillir, peut-être arroser un peu. Pas de mauvaise herbe. Je sais pas, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis dans ce jardin, pas de risque avec les autres animaux. Pas de risque devant le lion ou le loup. Tout est en parfaite communion. Et la femme et l'homme, nous l'avons vu, étaient tous les deux nus. Complètement nus. Pas de honte l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a une communion complète. Liberté, liberté dans, et amour dans ce jardin. Et Dieu, comme un bon père, ce créateur, qui rencontre ses enfants. Il parle avec eux, certainement. Il partage sur les sujets de la vie. Il joue dans la brise du soir. Il les appelle « Où es-tu ?» Quel tableau magnifique que ce jardin dédonne. La Bible nous rapporte cela en quelques versets. C'est relativement court. Et quelques versets plus loin, 3 ou 4, c'est ce qu'on appelle la chute. Ève et Adam désobéissent. Cependant, on peut imaginer que le temps du jardin d'Éden a duré quelques jours, peut-être une année, 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans. Ève et Adam, grâce à l'arbre de vie, étaient comme hors du temps. Le temps n'est pas une limite pour eux, une mesure menaçante. En Éden, comme au paradis de Dieu, on ne vieillit pas. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Pas de maladie, pas de mort, pas de faim, F-I-M. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il tient tout cela dans ses mains. Nous l'avons adoré et chanté tout à l'heure, ce Dieu de l'univers. La communion horizontale entre l'homme et la femme, les hommes et les femmes, est totale. Elle est portée, assurée par la communion, je dirais verticale, entre les humains et leur Dieu, le Dieu créateur et père de tous et en tous. Tableau magnifique, je l'ai déjà dit. Mais dans ce tableau, il y a quelques faits peu compréhensibles. En tout cas, moi, je me pose toujours des questions et je me réjouis de les lui poser. Mais les faits sont là. Et on ne peut pas les ignorer. Dans ce magnifique jardin, un arbre de la connaissance du bien et du mal. Une interdiction. Tu ne mangeras pas, sinon tu mourras. Dans ce jardin, un serpent, le plus rusé des animaux, semeur de zizanie, fauteur de troubles et de doutes. Dieu a-t-il vraiment dit ? Mais c'est pas vrai, il vous cache quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, cet animal ? Et Adam et Ève, nous l'avons vu et nous le savons, écoute le serpent, goûte au fruit défendu, et c'est la fin, F-I-N, là où il n'y avait pas de fin. Fin de la bonne entente, fin de la communion. Leurs yeux s'ouvrent, nous dit le texte. Première chose, leurs yeux s'ouvrent et ils ont honte de leur nudité. Le regard a changé. L'amour, d'amour, il se change peut-être en désir, en convoitise. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se coupent des feuilles, ils se cachent leur nudité. La relation change. La solidarité s'efface aussi devant Dieu qui pose des questions. C'est pas moi. C'est elle. C'est pas moi, dit elle. C'est le serpent. C'est la femme qui est fautive au départ, dira Adam. Et plus tard dans la Genèse, on verra que, et dans la Bible, que le mal fait sa grande entrée avec Caïn et Abel, le premier crime, la jalousie, l'orgueil, etc., etc. La communion entre les humains, la communion, je dirais, horizontale, est coupée. Où es-tu ? Dit Dieu. Mais qui t'a appris que tu es nu ? Et vous connaissez l'histoire. Et les sanctions tombent. Pour le serpent, tu romperas. La femme t'écrasera la tête. Pour la femme, tu accoucheras dans la douleur. Et là, quelque chose dans la relation qui est complètement changé. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est pas ce que Dieu voulait au départ. Pour l'homme, tu travailleras la sueur de ton front, la terre produira des épines, et le sol sera maudit à cause de toi. Tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. La mort fait son entrée. Tu auras une fin. L'homme est chassé du jardin d'Éden. Et la communion avec Dieu, on peut dire que quelque part, elle est coupée. Et c'est le début de l'homme naturel, je dirais, sans Dieu. C'est l'histoire de Caïn et Abel, comme des gens qui ont déjà dit. Puis l'homme se multiplie, devient méchant. Son cœur ne concevait que des pensées mauvaises, nous dit la Genèse. Et c'est l'histoire du déluge. Mais Dieu veille. Et il sauve un homme et sa famille, Noé. Il les met à part dans l'arche. Une alliance est établie. L'arc-en-ciel en est le signe. Dieu dit, je regarderai l'arc-en-ciel et je me souviendrai de cette alliance perpétuelle. Cette alliance perdure encore aujourd'hui avec l'humanité. Qui n'a pas vu un arc-en-ciel ? Dans Matthieu 5, verset 45, nous lisons que « Si vous aimez, nous dit Jésus, bénissez, faites du bien à tous, alors vous serez fils du Père qui fait pleuvoir, non pardon, qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants et qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. » Cette alliance de l'arc-en-ciel elle est valable encore aujourd'hui. Dieu veille. Il fait au cours de l'histoire de son peuple d'autres alliances, par Abraham. Le signe de cette alliance en est la circoncision. C'est bon pour les hommes, pour les femmes, il n'y a pas grand-chose. Par Moïse, le signe, c'est les 10 commandements, les tables de la loi, qui sont déposées dans une arche qui s'appelle l'arche de l'Alliance. Avec Israël, quand il fait des alliances, c'est le sabbat, le premier congé, qui est donné comme signe. Il nous est dit dans Exode 31 que les Israélites observent le sabbat comme une alliance perpétuelle. Dans chacune de ces alliances, Dieu promet. Dieu promet. Mais pour une alliance, il faut être deux. Moi, j'aurais pas d'alliance si j'étais tout seul. Mais au bout de chacune de ces alliances, quelque part, si vous lisez un peu le texte et la Bible, c'est la catastrophe. L'homme ne parvient pas à remplir sa part. Pourtant, comme en Éden, Dieu continue d'appeler, de tendre la main. Matthieu 21, Jésus-Christ raconte une parabole dite des méchants vignerons. Un maître de maison plante une vigne. Il y met une haie autour. Il creuse un pressoir. Il y bâtit une tour magnifique, certainement bien exposée. Et il la loue à des vignerons. Il fait une alliance, un contrat avec eux. Et ce maître de maison s'en va. Au temps de la récolte, il envoie ses serviteurs. Ses serviteurs, image des prophètes, qui retournent vers Israël. Cette vigne, c'est cette vigne du Seigneur dont il est parlé dans Ésaïe, chapitre 5. Cette vigne, c'est ses serviteurs, ses prophètes qui retournent sans arrêt pour rappeler, pour dire. Oui, il envoie ce maître de maison, ses serviteurs, pour toucher ce qui lui revient dans cette alliance qu'il a faite avec ses vignerons. Et à plusieurs reprises, il envoie. Mais qu'est-ce qui se passe? Rejet des vignerons. Il chasse, il frappe, il lapide. Et même, il tue le propre fils que le maître envoie. Image de l'homme, aujourd'hui complètement sourd, aveugle et inconscient. Mon image, votre image, l'image de chacun. Les hommes trompés, encore et toujours, par celui en qui ils placent leur confiance, par celui en qui ils se mettent sous le joug, le même que celui qui était en Éden. Le serpent, le prince du monde, Satan, ses anges et ses œuvres. Et l'homme rompt l'alliance. Continue à se croire bon, meilleur, j'ai pas tué, j'ai pas volé, se croit intelligent et maître de sa destinée. Quoique Satan, avec ce qui se passe dans le monde, ça vacille un peu, hein, la destinée. Paul l'apôtre, dans Romains, chapitre 1 et suivant, décrit l'état de péché et de corruption de l'humanité. Or, il y va fort, hein. Cette humanité sans Dieu. Et il programme l'universalité du péché. L'alliance brisée, le contrat non rempli, la cible manquée, le but loupé pour l'homme. Et le but loupé, c'est un peu une des bases, enfin, ce que veut dire le péché. Romains 3, verset 9 et suivant. Tous, juifs et grecs, les grecs, ça veut dire les païens, ceux qui ne sont pas juifs, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les mérinois, les non-mérinois, sont sous l'emprise du péché, dit-il. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est marrant, ce texte, je l'ai relu ce matin, je pense qu'il y en a qui lisent la Ligue, il était dans la Ligue ce matin, ce texte. Pas de juste, pas même un seul, parce qu'on lit dans les Lamentations de Jérémie, qui est un... c'est assez dur, hein. Enfin, les bontés se renouvellent chaque matin, chapitre 3. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu. Il n'en est pas un qui fasse du bien. Au Dieu de Dieu, en tout cas. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Au verset 21, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, à la place de Dieu, j'en aurais ras-le-bol, hein. Je me mettrais certainement en colère. Peut-être, ou alors plutôt, peut-être que j'abandonnerais. je détournerai mon regard, je tournerai le dos aux hommes. Pas de faire. Je romprai l'alliance, je déchirerai ce qui nous lie, je mettrai fin à tout cela, je t'abandonne dans ton bourbier. Si Dieu réagissait comme moi, alors la brouille serait définitive et la séparation, la mort, la fin, F-I-N, serait effective. Mais Dieu n'est pas comme cela. Il est amour. Il aime les hommes. On le voit tout au long de la Bible, dans ce qu'il nous a rapporté. Il veille. Il veille. Qui peut être secouru? Qui peut être sauvé? Question des disciples à Jésus-Christ dans Luc 18. Et Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes et aux femmes est possible à Dieu. Les révolutions ne changent pas le monde pour longtemps. Elles ne changent surtout pas les hommes. Voyez celle de 1789 en France. Puis celle de 1914 en Russie, et puis toutes celles que nous voyons se dérouler aujourd'hui sous nos yeux. Des révolutions justifiées d'ailleurs parfois. Jérémie 51, gardez-vous de perdre courage et de prendre peur aux nouvelles que l'on colporte dans le pays. Tantôt c'est une rumeur, tantôt une autre. Selon les années, violence sur la terre. Coup d'état d'un dictateur qui en chasse un autre. Depuis Jérémie, qui écrivait ça 500-600 ans avant Jésus-Christ, il me semble que ça n'a pas beaucoup changé. Mais ce même Jérémie prophétise aussi que c'est Dieu qui tient toute chose. Il promet de tenir son alliance. Pour lui, ce n'est pas un contrat. Il y aura rétablissement, il y aura espérance. Un contrat peut se rompre, mais pour Dieu, une alliance ne peut être rompue. Il tient de son côté. De son côté, pas de problème. C'est du côté de l'homme qu'il y a problème. Mais notre Dieu, il a la solution. Et on le voit en Jésus-Christ quand il vient sur terre physiquement pour porter nos fautes. Il ne va pas essayer de changer la société. Il laisse les Romains en place. Mais il veut changer le cœur de l'homme. En vérité, je te le dis, dit Jésus à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu et tout ce qui va avec. Pour cela, cette nouvelle alliance, il va venir sur terre, accomplir lui-même cette nouvelle alliance en son Fils. Cette nouvelle alliance qui va englober toutes les alliances qui ont eu lieu avant entre Dieu et les hommes. 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ce verset qui m'accompagne, vous savez depuis quand? Depuis Noël, j'arrive pas à le chasser de ma tête. Parce que j'en ai besoin. Parce que vous savez, on est là devant, mais j'ai souvent des doutes. Souvent on me dit, chanson, qu'est-ce que tu vas dire ce matin? Mais si tu connaissais vraiment. Mais Dieu me connaît. Il nous donne des textes parfois qui nous touchent particulièrement. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Il était là en Christ. C'est pas juste le Fils de Dieu. C'est Christ, c'est Dieu lui-même. Vous y croyez? Vous y croyez, vous? Oui? Magnifique. Parce qu'il était déjà là, Noël. Et puis il sera là vendredi 5, on va bientôt fêter Pâques. Pâques, le jour de la résurrection. Ah, ça c'est magnifique. Mais on oublie quand même ce qui s'est passé avant, sur le Fils de Dieu. Oui, Christ est le problème, très souvent, on le voit. Quand je discute avec mes camarades de travail, ou avec d'autres personnes dans d'autres cadres, tant qu'on parle de Dieu, une puissance, etc., compris même parfois, il n'y a aucun problème, à part quelques-uns. Ça va, Dieu, ça va. Et au moment où vous amortez le mot de Jésus, le Christ, le Messie, la parole, la lumière, alors là, il y a problème. Que ce soit avec mes copains de boulot, où il y a des sourires, que ce soit avec les Juifs, les musulmans, les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Christ est Dieu, ou tout un chacun. Et pourtant, c'est dans ce Dieu en Christ qu'il y a du nouveau. Alors, lisons le contexte de cette parole « Dieu était en Christ ».
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant au point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. »
Amen. Dieu était en Christ, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, de leurs péchés. Nous vous en supplions, dit Paul, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu et ne recevez pas cette grâce en vain. Que ce soit pas vain ce qu'a fait le Christ pour nous. Et je parle ici à des croyants, je crois, en Jésus-Christ. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Dieu réconcilie, refait alliance, une nouvelle alliance. Il rétablit la communion par son Fils. Dieu, une droite d'amour et de gloire.
Peu à peu, la ligne s'incline sous la pesanteur de la gloire. Verticale d'abord, elle devient le bâton d'un voyageur, le bâton de Joseph, cet homme lumineux qui, dans la foi, surmonte l'incertitude. Car il tend l'oreille et il entend une voix d'en haut qui le rassure. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. La ligne s'incline encore. Devient les barreaux d'une mangeoire. C'est parmi les animaux que naît le roi de l'univers. La ligne s'incline encore. Devient une femme fatiguée, fatiguée d'avoir marché longtemps, d'avoir cherché longtemps un lieu pour accoucher d'un fils, son premier-né. La ligne s'incline encore vers une crèche. Devient un enfant couché et emmailloté, déjà les bras ouverts, déjà liés de bandelettes. « Oh, mon fils, seras-tu mis à mort en croix et déposé dans un tombeau? Mettras-tu dans ce trou noir une lumière ?» Peu à peu, la ligne verticale devient horizontale. Et c'est ainsi que sous la pesanteur de sa gloire, que Dieu devient homme. Ce texte est tiré de la Bible des contrastes de Henri de Lindegaard.
Dieu était en Christ. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il s'est couché par terre. Mais en Christ, Dieu rétablit la communion avec lui. Dieu, cette communion qui était coupée avec lui et cette communion entre nous, Dieu rétablit cette communion. Il nous offre, en Christ, on l'a lu, sa réconciliation. La ligne peut se redresser. Cette droite en direction du ciel, verticale, solide, forte, vous voyez, je l'avais fait assez costaud, ancrée au sol, s'élevant là-haut, vers lui, signe de cette réconciliation, cadeau que l'homme peut accepter ou refuser. Paul précise même que les chrétiens doivent s'interroger à ce propos et se demander s'ils ont vraiment accepté cette réconciliation. Suis-je vraiment réconcilié avec Dieu? Est-ce que je vis dans la paix que seul le Seigneur peut donner? Je vous encourage, parce que je vais tirer deux, trois petites choses de ce livre magnifique. Makarios, écrit par un dénommé Manfred Engeli. Il nous donne quelques pistes. Makarios veut dire le bonheur, ou le bienheureux, non, heureux, bienheureux. Et il parle au chapitre 8 de la réconciliation. Ça m'a beaucoup touché. Alors, je tire deux, trois choses de ce petit livre maintenant. Cette réconciliation avec Dieu, verticale, c'est l'authentique fondement, c'est le seul fondement. C'est le support de toute autre forme de réconciliation, notamment à l'horizontale. Réconciliation, communion, rétablie par sa grâce, uniquement par sa grâce. C'est le jour favorable. Ne l'accueillons pas en vain. Merci Seigneur. Cette verticale, forte, costaud, c'est Dieu qui est là, porte l'horizontale. Par Jésus-Christ, la réconciliation, la communion renouvelée entre nous est possible. La voilà, cette ligne horizontale. Plus petite, plus mince, plus courte, plus fragile. C'est nous qui la dessinons. Et portée. Je l'ai faite un peu conique. Je ne sais pas si vous voyez, elle est un petit peu conique. Car à un moment donné, cette droite horizontale, pour permettre notre réconciliation avec Dieu et entre nous, a pénétré dans la communion entre Dieu et son Fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle réconciliation horizontale peut-il y avoir? Je vais faire rapidement, je veux juste en citer trois. De Manfred Engeli, il donne trois pistes. Un, se réconcilier avec soi-même. Dans cette réconciliation horizontale portée par la verticale, je me réconcilie avec moi-même. Je peux m'accepter. Je peux m'aimer. Être convaincu aussi que j'ai besoin de la grâce de Dieu. La deuxième piste, c'est se réconcilier, bien sûr, avec son prochain. Pardonnez, et il vous sera pardonné dans la prière. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Dans cette démarche de pardon, d'acceptation de l'autre, Dieu veut nous faire du bien. C'est à nous, en premier, qu'il veut faire du bien, pas qu'on reste coincé, pour que nous puissions vivre en paix, dans sa paix. Et le troisième, la troisième piste, c'est se réconcilier, nous dit-il, avec la vie. Se réconcilier avec la vie, c'est dire oui. Oui à ce qui a été. Oui à ce qui est maintenant. Oui à ce qui arrivera demain. Dire oui, c'est se décider de quitter la révolte contre les circonstances du passé. Ou dire oui, c'est de ne pas se révolter contre les circonstances du futur. Je vieillis. la maladie, enfin, tout ce qui peut m'arriver, cette angoisse du futur. C'est se réconcilier avec cela aussi. Et renoncer à avoir pitié de soi-même. Le passé ou le futur, non accepté, non réconcilié entre moi et eux, empiète sur ce que je vis maintenant, aujourd'hui. Se réconcilier avec ce qui était, avec ce qui est et ce qui vient, conduit à mettre notre vie entre les mains de Dieu. Et enfin, vivre librement le moment présent, l'aujourd'hui de Dieu, dans sa main. Si nous sommes prêts à faire ces pas fondamentaux dans notre relation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes et avec la vie, et cela au quotidien, tous les jours, alors nous marchons sur le chemin de la paix. C'est par la croix que toutes choses sont rétablies. C'est pour ça qu'elle est là, la croix, dans nos églises. Comme ministère de réconciliation, une parole de réconciliation, verticale et horizontale pour les hommes, pour tous ceux qui nous entourent, nous est donnée. Et nous sommes donc ambassadeurs de ce royaume de Dieu, qui s'est approché en Jésus-Christ et qui vient. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen.